Radio Prague, les informations. Bonjour, plus de 100 000 personnes participent ce mercredi à la grève dans la fonction publique. Selon le Premier ministre, les syndicats ne défendent cependant pas les intérêts des travailleurs tchèques. Et puis enfin, le parti pirate tchèque veut rendre public des documents de différents ministères. Selon la Confédération des unions syndicales de Bohême-Moravie, 123 000 employés de la fonction publique sont en grève ce mercredi en République tchèque. 185 000 autres personnes ont également manifesté leur soutien au mouvement, sans toutefois prendre part activement à la grève. Tous protestent contre les modifications du système de rémunération et notamment contre la réduction de 10% de la masse salariale dans la fonction publique que le gouvernement de Petr Nečas entend appliquer à partir de l'année prochaine. La grève est organisée dans des hôpitaux, établissements scolaires et culturels ainsi que dans diverses autres institutions. Des manifestations se tiennent depuis midi dans une vingtaine de villes tchèques auxquelles ne participent cependant que quelques milliers de personnes. Rappelons qu'une grève avait déjà été organisée en septembre dernier qui avait réuni entre 40 000 et 50 000 personnes à Prague. Selon le Premier ministre Petr Nečas, les syndicats n'ont cependant pas l'intention de défendre les droits des travailleurs, mais ils s'engagent en commun avec l'opposition dans un jeu dangereux ayant pour objectif de déstabiliser le pays. Le chef du gouvernement a fait cette déclaration mardi, soit la veille de la grève. Il a ainsi réagi à l'intention de la Confédération des unions syndicales de Bohême-Moravie d'utiliser la grève pour protester contre les réformes préparées par le gouvernement. Selon Petr Nečas, étant donné le caractère des protestations, il est pratiquement impossible d'évaluer quels seront les frais de la grève au niveau de l'économie nationale. Et puis nous reviendrons plus en détail sur cette grève dans quelques instants dans les faits et événements. Le parti pirate tchèque a fait savoir qu'il voulait rendre public des documents de différents ministères. Selon les dirigeants du parti, ces documents seraient beaucoup plus intéressants pour les Tchèques que les données diplomatiques américaines publiées par le site Wikileaks. Le parti pirate tchèque travaillerait sur un site web qui supplierait au site Wikileaks en République tchèque. Pour le représentant du parti, Jakub Michalek, ce combat est celui, je cite, des libertés fondamentales sur la toile. Les tentatives de n'importe quel gouvernement contre la liberté de la presse et pour limiter la liberté d'expression sont pour nous inacceptables. Fin de citation. Il y a 15 ans, la ville de Kutná Hora, située à 60 km de Prague, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon les représentants de cette organisation, le centre de la ville, avec l'église Sainte-Barbe et la cathédrale de l'Assomption dans le quartier de Sedlec, reflète d'une façon exceptionnelle l'esprit du Moyen-Âge européen. La ville royale de Kutná Hora, en Bohême centrale, a été fondée vers la fin du XIIIe siècle dans un endroit où se trouvaient des mines d'argent. Après l'année 1300, y est ouvert l'hôtel de la monnaie centrale de l'État tchèque. La ville était très riche et a connu un grand essor culturel et architectural. On termine avec un mot de météo. C'est un temps gris et pluvieux qui règne sur la majeure partie du territoire ce mercredi, jour de la fête des IVA. Les températures sont positives et varient entre 0 et 6 degrés pour la maximale. Un retour du froid avec de nouvelles chutes de neige est toutefois prévu pour jeudi et la fin de la semaine. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Magda Rozinkova. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. À la une aujourd'hui, la grève dans la fonction publique et mobilise pendant toute la journée plusieurs milliers de personnes dans tout le pays. Nous enchaînerons avec un événement culturel assez exceptionnel, à savoir l'ouverture de la première exposition de dessins à peinture d'Amedeo Modigliani en République tchèque. C'est à la maison municipale de Prague. Nous parlerons enfin de la parution de la première encyclopédie de la bande dessinée tchèque. Guillaume Narguet, vous le disiez dans le bulletin, les salariés du secteur public tchèque se sont mis en grève ce mercredi pour protester contre la mesure d'austérité décidée par le gouvernement de centre-droit du Premier ministre Petr Nečas. Alexis, la journée de mobilisation n'est pas encore terminée à l'heure où nous diffusons cette émission, mais est-ce qu'on peut déjà faire un bilan provisoire?
Oui, un bilan qui ne serait que provisoire, Magda. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que les syndicats avaient de très grandes ambitions. Environ 123 000 personnes prennent activement part à cette grève et 185 000 autres y ont exprimé leur soutien. C'est ce qu'a affirmé Jaroslav Zavadil, c'est le chef de la Confédération des unions syndicales du pays. Le problème, c'est qu'il a tenu ce discours lors d'une manifestation à Prague, dans la capitale, qui a réuni à peine 1 millier de personnes. Alors c'est peu, très peu même. Rappelons que le secteur public en République tchèque, ça représente environ 600 000 salariés. D'autres manifestations, il faut le souligner également, ont eu lieu dans une vingtaine d'autres villes, dont Ostrava, Ustina nad Labem, Mladá Boleslav et Pardubice. Mais ces manifestations, là aussi, n'ont regroupé que quelques centaines de personnes, quelques milliers dans le meilleur des cas. Alors, il faut également préciser que les manifestations sont rares dans le pays et qu'il n'y a pas de tradition de grève comme elle peut exister, par exemple, en France ou en Grèce aussi. Et ce qu'on peut dire, c'est que le bilan provisoire est quand même négatif pour ces syndicats, que cette journée ressemble à un baroud d'honneur et que la majorité de la population, et en l'occurrence la majorité des fonctionnaires, est plus résignée que révoltée.
Et quelles sont les réactions pour l'instant sur la scène politique tchèque ?
Eh bien Magda, c'est assez schématique pour l'instant, un peu comme d'habitude on pourrait dire, avec les représentants des partis de droite qui fustigent les syndicats. Pour le chef du gouvernement, le Premier ministre Petr Nečas, les syndicats et l'opposition de gauche jouent un jeu politique dangereux qui risque, je cite encore, de déstabiliser le pays. Le président de la République aussi, le très libéral Václav Klaus, a accusé les syndicats de vouloir seulement montrer leurs muscles. Et selon le chef de l'État, les coupes budgétaires engagées par le gouvernement représentent une nécessité absolue. Donc, à droite, on condamne cette journée de mobilisation. En revanche, à gauche, on se montre solidaire. L'opposition social-démocrate a tenu à soutenir les manifestants et les grévistes. Il y avait même parmi les orateurs lors de la manifestation pragoise Richard Falber, c'est un député européen du CSSD. Et il faut souligner qu'en République tchèque, la direction syndicale et la direction du Parti social-démocrate sont plus que proches. D'ailleurs, l'ancien président de la Confédération syndicale, il s'appelle Milan Štěch, est depuis peu le président du Sénat, élu sur la liste social-démocrate. Et évidemment, aujourd'hui, il soutient le mouvement et explique qu'il considère la baisse de 10% de la masse salariale dans la fonction publique comme un pas dans la mauvaise direction.
Alexis Rosenzweig nous a donné les détails sur le déroulement de la grève des salariés du secteur public, grève qui se poursuit, je vous le rappelle, jusqu'à mercredi soir. La toute première exposition en République tchèque du célèbre peintre et sculpteur italien Amedeo Modigliani s'ouvre ce mercredi 8 décembre à la maison municipale Obecný dům de Prague. Elle présente une soixantaine d'œuvres, des peintures, esquisses et dessins de Modigliani, dont le fameux carnet arménien de 1916, exposé pour la première fois à l'étranger. L'exposition met également en parallèle les œuvres de Modigliani et de ses contemporains, notamment du tchèque František Kubka. L'idée est venue à la commissaire italienne de l'exposition, Serena Bacalini, après avoir découvert une photo de Modigliani et de Kubka prise à Paris lors du salon d'automne de 1912 où ils ont tous deux exposé. Qu'est-ce que Modigliani et Kubka ont-ils en commun, Serena Bacalini ?
Ils ont en commun la vie solitaire, la recherche solitaire. L'avoir refusé de faire partie de mouvements artistiques. Et ils sont été transcurés, ils ne vendaient pas leurs œuvres, mais ils ont continué avec cohérence leur recherche.
La galerie pragoise Vernon est le principal organisateur de l'exposition d'Amedeo Modigliani à Prague. On écoute sa directrice Monica Burian-Jourdan.
Je pense que l'unique, et ça c'était confirmé à nous aussi des représentants des musées qui ont nous prêté des œuvres, l'unique c'est qu'on présente Kubka et Modigliani ensemble après presque 100 ans. Et qu'on a aussi pu avoir les œuvres de Jeanne Butter, la femme du Amedeo Modigliani, qu'elle n'est pas connue, pas du tout. Pour moi, elle est un peintre excellent, mais qu'on s'était déjà dit beaucoup dans l'ombre du Amedeo Modigliani.
Quelles sont les institutions qui ont emprunté?
On a les institutions plus importantes, c'est sûrement Historique du Londres et le Musée d'Israël de Jérusalem. Et on a 34 dessins du Amedeo Modigliani. Ici, on a les dessins préparatoires du période qu'on lui avait connu, Brancusi, justement de 1912, qui vient du Paris, d'une galerie à Paris. Bon, il y a beaucoup à voir.
Vous exposez aussi le fameux carnet arménien. Oui. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Oui, c'est très exceptionnel parce que le propriétaire du set, ou collectionneur de cette carnet arménienne, il n'avait jamais présenté avant. quand lui a entendu parler d'une autre exposition, lui a proposé cette exceptionnalité. Et il y a les dessins très très fins dans cette carnet et c'est tout relationné avec la Kabbalah, avec la symbolique du judaïsme que on sait que Modigliani connaissait très bien la Kabbalah et pour lui être juif était très important aussi.
Vous avez évoqué aussi la fille de Modigliani qui a été très importante.
Oui, la fille, c'est pratiquement grâce à elle que tous ces documents, tous les dessins se sont conservés. Elle a dédié toute sa vie à son père. On a ici une interview avec elle où elle parle de son père, de cette recherche. Elle est allée dans tous les restaurants, dans tous les bars. Elle a réacheté les dessins, les lettres et elle a aidé aussi que les tableaux importants sont finis dans les institutions.
Christian Parisot est le directeur de l'Institut Modigliani Archives Légales Paris-Rome qui expose à Prague une série de photographies de Modigliani, de ses amis et de sa famille ainsi que les lettres et carnets du peintre.
C'est une exposition naturellement qui est très difficile à mettre en place et c'est une exposition qui a des éléments forts et qui sont intéressants. Évidemment, le manque de moyens, c'est-à-dire il faut des capitaux énormes aujourd'hui pour avoir une exposition de Modigliani. Quand je vous dis que l'exposition qu'on a organisée à Rome, ça a coûté 3 millions d'euros, donc il faut un investissement. Et je ne sais pas si avec un grand investissement, on est vraiment plus intéressant qu'une exposition comme celle-ci, qui est plus intellectuelle, plus culturelle. Il y a les archives, il y a les carnets. C'est une exposition de lecture, celle-ci. Il faut prendre du temps pour regarder tout. Nous avons eu une seule grande exposition, c'était en 1981 à Paris avec 224 œuvres. Aujourd'hui, c'est impossible. Ici, il y a un certain nombre de dessins, un certain nombre de peintures, donc c'est déjà exceptionnel. Et je pense que ça sera de plus en plus difficile de les voir, de plus en plus de préparer une exposition pour des raisons d'assurance, de transport, des difficultés qui sont évidentes. Mais je pense que c'est cette exposition le démarrage d'un dialogue important pour connaître finalement, reconnaître finalement le Modigliani, le véritable Modigliani en dehors de la légende.
L'exposition d'Amedeo Modigliani, c'est à la Maison municipale de Prague jusqu'au 28 février prochain. Christian Parisot sera l'invité de l'une de nos prochaines rubriques culturelles. Le premier volume d'une nouvelle et première encyclopédie de la bande dessinée vient de sortir dans la librairie, preuve que l'intérêt pour ce genre littéraire longtemps négligé est de plus en plus important à Nakubishta.
Nous l'avons souvent répété à l'occasion notamment de l'organisation à l'automne du festival Comics Fest. La République tchèque n'est certes pas une grande puissance en matière de bande dessinée comme la France ou encore la Belgique, mais elle possède néanmoins une certaine tradition et depuis 1989, des personnes enthousiastes s'attachent à faire redécouvrir ces récits illustrés. Signe des temps, la parution récente du premier tome d'une encyclopédie de la bande dessinée consacrée aux histoires publiées en Tchécoslovaquie entre 1945 et 1989 dans un magazine appelé ABC. Robert Pavelka est un des deux auteurs de ce premier volume. Il explique les raisons qui les ont motivés.
Nous avions d'abord lu un article qui disait que pendant cette période, il n'y avait pratiquement aucune bande dessinée. Nous avons dénombré d'abord 150 titres, puis un millier d'exemplaires du magazine. Du coup, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Nous avons commencé à travailler sur le sujet. On s'est dit que ça valait le coup, parce que certains exemplaires ont été très difficiles à dénicher. Certains étaient complètement oubliés, surtout les plus vieux numéros.
La révolte des cerveaux, la deuxième expédition, tels sont quelques-uns des titres des histoires contenues dans ce magazine ABC. L'objectif des deux auteurs de l'encyclopédie, montrer que même sous le communisme, il pouvait y avoir des récits intéressants et pas nécessairement instrumentalisés par la propagande. D'autant qu'ABC traitait notamment des sciences et des techniques, des thèmes qui laissaient leurs auteurs plus libres. Vlastislav Toman, ancien rédacteur en chef d'ABC.
On ne peut évidemment pas dire que nous étions apolitiques. Évidemment, il y avait toujours des obligations à remplir dans le magazine, mais en gros, on pouvait faire tout ce qu'on voulait.
Pour le régime de l'époque, la bande dessinée restait néanmoins le symbole de la décadence culturelle occidentale. Même la publication de l'histoire de Lénine, tirée du journal communiste français L'Humanité, n'eut pas l'effet escompté, puisque la nomenklatura tchécoslovaque considéra la bande dessinée comme un outrage, rien de moins. Parmi les noms d'auteurs connus, outre Vlastislav Toman lui-même, on retrouve des personnalités telles que Yaroslav Foglar, connu pour ses récits d'aventure, les Rychlé-Chipé, les flèches rapides. Évidemment, aujourd'hui voit le jour progressivement une nouvelle génération d'auteurs tchèques de bande dessinée, ainsi que de nombreuses traductions de BD étrangères. Outre l'aspect idéologique, quelle est la différence entre la bande dessinée de la période traitée par l'encyclopédie et la bande dessinée actuelle? Robert Pavelka.
Aujourd'hui, on appelle les bandes dessinées des romans graphiques. Je dirais que c'est plutôt le récit, le contenu qui sont mis en avant aujourd'hui au détriment de l'aspect artistique. À l'époque, en outre, elles étaient vraiment faites à la main. On ne faisait pas de retouches par ordinateur. Donc, malgré une certaine naïveté, les anciennes BD sont plus naturelles. Je dirais que la différence est la même qu'entre un CD et un disque vinyle.
Pour finir, précisons encore que les deux auteurs travaillent déjà sur le deuxième tome de l'encyclopédie. Celui-ci sera consacré à la même période, mais à d'autres magazines.
C'était Faits et événements en République tchèque. Place maintenant à l'histoire. Le 2 décembre, 205 ans se sont écoulés depuis la bataille d'Austerlitz. Le nom allemand de la commune de Slavkov en Moravie, qui vit le 2 décembre 1805. La victoire de Napoléon Ier sur l'empereur d'Autriche François Ier et le tsar russe Alexandre Ier. Cette année encore, près de 1200 passionnés d'histoire militaire de 15 pays d'Europe ont pris part à la reconstitution d'une des plus fameuses victoires de Napoléon qui s'est déroulé sur le sol tchèque. D'ici 2013, le château d'Austerlitz entend ouvrir une nouvelle exposition permanente consacrée à la campagne de Napoléon en Europe centrale et ses conséquences. Retour sur l'événement dans cette page d'histoire qui vous est proposée par Jarka Gusublova.
Chapitre de l'histoire.
Les sons de canons, les armes et les costumes d'époque, la même scène que celle il y a 205 ans. Le 2 décembre 1805, après 9 heures de combat, la grande armée de Napoléon bat les forces austro-russes, supérieures de presque 30 000 hommes. Beaucoup neige aussi cette année, comme il y a 205 ans, sur le champ de bataille de Tvarojna et la colline de Jouragne, que Napoléon a choisi pour installer son poste de commandement et qui est une ex-territorialité de la République française. Beaucoup de spectateurs aussi, plus de 9 000, venus assister en dépit du grand froid à la victoire de Napoléon, incarnée cette année par l'avocat français Frank Samson, le même qui avait porté le tricorne lors de la reconstitution de la bataille de Waterloo. Jakub Samek a assumé quant à lui le rôle de chef d'état-major général de l'armée napoléonienne.
Chaque année, nous cherchons à perfectionner et à préciser la reconstitution de la bataille pour qu'elle soit la plus fidèle et la plus près possible de la réalité historique.
La mémoire de la fameuse bataille est entretenue avec beaucoup de fierté en Moravie. À Austerlitz, en une seule journée, le 2 décembre 1805, près de 20 000 soldats sont tombés, alors que 150 000 hommes ont combattu, dont 90 000 du côté austro-russe. Le champ de bataille d'Austerlitz est un des plus étendus en superficie parmi les champs de bataille napoléoniennes et les sites sur lesquels elle s'est déroulée y sont très nombreux. Tvarojna, Pratse, Sokolnitsa, Kamenice ou la colline de Santon, dénommée ainsi par les soldats de la Grande Armée. Outre son importance stratégique, la bataille qui s'est déroulée un an jour pour jour après le sacre de Napoléon est considérée comme un chef-d'œuvre tactique de ce chef militaire. Un dispositif impressionnant a été déployé cette année pour la reconstitution du combat. Une logistique d'un double plus importante que d'ordinaire, 80 chevaux, 20 canons, 350 kg de poudre à canon et 1200 passionnés d'histoire militaire de 15 pays d'Europe, comme l'explique Miroslav Jandera, président du projet Austerlitz.
Le nombre d'intéressés qui nous contactent chaque année à Slavkov et qui voudraient participer à la reconstitution de la bataille est supérieur à 5000, alors qu'environ un millier seulement peut être admis vu nos possibilités. Ainsi, le budget de la seule reconstitution du champ de bataille s'est élevé cette année à près de 5 millions de couronnes.
Le drapeau français flottait jeudi dernier au-dessus du château baroque de Slavkov où Napoléon a installé son quartier général à la veille de la bataille où il a écrit après celle-ci son fameux discours à ses soldats et où l'armistice a été signé le 6 décembre 1805. La commémoration s'est terminée par un acte de recueillement au monument de la paix où reposent les restes de soldats découverts sur le champ de bataille. Érigé en 1912 près de la commune de Pratze, le monument symbolise les guerriers des trois armées, ainsi qu'une allégorie du peuple morave touché par le conflit. Jusqu'à présent, ce monument est l'unique qui rappelle la bataille. Or, les visiteurs tchèques, et plus encore ceux de l'étranger qui viennent visiter Slavkov, sont le plus intéressés par la fameuse bataille, à laquelle seule une petite exposition présentant un plan luminé du conflit est consacrée. Les autres expositions au château sont dédiées à la famille Kounitz, son ancien propriétaire. Cela doit changer au printemps 2013, dit le directeur du château d'Austerlitz Slavkov, Aleš Šilhánek.
L'exposition napoléonienne qui sera installée au château d'Austerlitz documentera, dans un contexte plus large de l'Europe du début du XIXe siècle, tout ce qui s'était passé dans la région morave avant la bataille. Elle documentera le déroulement même du conflit entre la coalition et les Français, ainsi que ses conséquences pour l'Europe, parmi lesquelles la ruine du Saint-Empire romain germanique et la fin de la Troisième Coalition. Elle rappellera encore un autre aspect important, à savoir l'impact de la bataille sur la population de la région d'Austerlitz, qui a beaucoup souffert de ce conflit. L'exposition qui ouvrira au printemps 2013 sera une exposition interactive qui satisfera tant la jeune génération que les spécialistes, et nous espérons qu'elle sera attrayante pour l'ensemble des visiteurs.
Parlant des conséquences de la bataille des trois empereurs, Aleš Šilhánek a encore rappelé que la signature du traité de la paix a eu lieu le 26 décembre 1805 à Presbourg, actuelle Bratislava. Contrainte de capituler, l'Autriche a perdu un territoire de 66 000 km², plus de 3 millions d'habitants, un septième du revenu national. Napoléon, dont le pouvoir était raffermi suite à cette victoire, encore plusieurs fois écraser dans les années à venir les armées autrichiennes, russes et prussiennes. En 1812, il est arrêté en Russie et après une défaite à Leipzig, il tente encore un retour, mais il est définitivement défait en 1815 à Waterloo. En attendant l'ouverture de la nouvelle exposition napoléonienne au château d'Austerlitz, prévue au printemps 2013, il faut complètement rénover les locaux des anciennes écuries qui l'abriteront. Le coût des travaux, majoritairement financés par des fonds européens, est évalué à 70 millions de couronnes. Les collections occuperont une surface de 800 mètres carrés. La nouvelle exposition complétera une autre, accessible au public depuis le mois de juin, dans dans l'ère du Monument de la Paix et qui est intitulée « Le phénomène d'Austerlitz ».
C'était les chapitres de l'histoire sur les ondes de Radio Prague. Le programme en langue française se termine. Merci de votre attention. À très bientôt sur Radio Prague.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21:30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1:30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.